C'était aussi Dungeon Mini qui utilisait la même techno,
et
mais
qui
Dungeon Mini,
ça
n'aurait pas marché. Donc là, on irait voir que non seulement ça a bien marché, mais en plus de ça, il y a un très bon panier moyen, 89$. C'est 35$ de base.
Ouais.
Donc il faut compter, bien sûr, frais de port et compagnie, mais ça reste vachement intéressant. Et surtout, tu compares à d'autres projets moitié élément physique, moitié jeu iPad, et tu as comme ça Smart Letter, c'est des petites lettres que tu peux mettre côte à côte et puis ça peut détecter de différentes choses. Eux, ils avaient levé 20 000$ à peu près et après ça ils ont signé pour 1 000 000 $.
Ça c'était des Français?
Non, c'est des Américains, toi, mais en gros ça donne une échelle, c'est-à-dire que ça reste des sommes assez petites, mais si un projet entre guillemets qui fait 20 000$ sur Kickstarter du même genre peut après ça lever 1 000 000 $, bah, si tu fais 30 000$ sur Kickstarter, et bah tu peux peut-être lever encore plus. Non, non, évidemment c'est des comparaisons qui n'ont pas de sens.
Mais viser quel marché avec le système des lettres?
Le parent-enfant, comme toujours, c'est disons que moi il m'était arrivé de faire un jeu indépendant typé enfant, Cendrillon Princesse. On avait signé avec Chilingo à l'époque, mais c'était l'iPad 1. Ce qui fait que les parents, ils n'étaient pas du tout disposés à laisser l'iPad 1 dans les mains de l'enfant. Alors qu'un an plus tard, l'iPad 2 était sorti et ils filaient l'iPad 1, le vieil iPad, aux enfants. Et disons que on s'est un peu foiré. Et donc je voulais prendre ma revanche avec donc ce public par enfant, donc pour ça que c'était à l'occasion de Pitch My Game, donc organisé dans le local Blizzard par des anciens étudiants, si je ne dis pas de bêtises, et donc qui ils avaient invité plusieurs projets, notamment ce projet suisse, le suisse et parisien, donc de Oniri Islands. Et donc ils l'ont présenté, j'ai vu qu'il y avait une belle présentation, qu'il y avait déjà une volonté de faire quelque chose d'assez bien niveau caméra, niveau acteur, un peu. Et donc je me suis dit, ouais tiens, je vais leur proposer quelque chose pour la campagne Kickstarter. Bon, mine de rien, entre la prise de contact et le lancement de la campagne, il s'est écoulé un an.
Donc,
ah oui, c'est communication régulière, préparation et tout, parce que le projet, il est en incubateur à la Haye, c'était à Genève. Et donc il fallait le temps déjà qu'il passe des étapes supplémentaires, qu'il lève des financements, qu'il prépare la communication. Et puis mine de rien,
c'est entre Pitch My Game
et l'enfant n'attend pas ça, puisque la dernière édition de Pitch My Game, si je dis pas de bêtises, c'était donc février 2016.
Les états sont beaucoup plus longs que nous, hein, puisque nous on a démarré from scratch en janvier 2016.
Voilà.
Oui, on a dit vas-y, on fait un jeu. Et le Kickstarter, on l'a fait en un mois et demi, tu sais, tout le travail.
Donc, le Kickstarter, il est venu dès le début du développement du jeu, alors.
Non,
c'est venu, vous aviez besoin de sous.
Alors, c'est compliqué. Mais faut savoir que nous, en fait, on est trois tarés. Donc, on fait un peu les trucs de travers et on fonce dans les murs et en les défonçant. Et Kickstarter, oui, il est arrivé là en avril, mais il devait arriver en décembre.
En décembre prochain ou en décembre
l'année dernière.
Avant. Du coup, vous avez pris plus de temps.
Il est lancé en décembre.
On voulait le lancer en décembre de l'année dernière, ce qui n'est pas non plus la bonne date.
Ouais, justement, mais j'espère qu'il y a au moins 5 personnes qui vous ont dit non, faut surtout pas le faire.
Et on devait faire Greenlight et Kickstarter en même temps, et on a fait Greenlight le 24 décembre. Et c'était pas si bête, parce qu'en fait, il n'y avait personne d'autre.
Oui,
on avait personne d'autre.
Si c'est gratuit, ça va. Le problème de la période novembre, décembre, janvier, particulièrement pour les Kickstarter, c'est que les gens dépensent tout leur argent pour Noël. Et donc avec tout ce problème évidemment des gens qui n'ont plus de sous. Et il faut attendre fin janvier avant qu'ils récupèrent de l'argent. C'est d'ailleurs pour ça que généralement début février c'est assez encombré au niveau Kickstarter.
Ah non, c'est ce que je te disais, on est des tarés. D'aller faire ça à Noël.
Après, il y a aussi ces exemples célèbres comme, tu sais, on dit toujours qu'il faut que les jeux sortent absolument avant Noël, et ce fameux exemple de Diablo 1, ils ont dit non, on peut pas sortir à Noël, on travaille quelques mois de plus pour l'améliorer, donc ils sont sortis après Noël, mais ça a été un succès. Bon, on parle de Diablo 1 à l'époque, voilà, donc quand même ça remonte à loin, donc
C'est souvent le cas, hein, des petits jeux qui sortent janvier, février et qui font des hold-up en nombre de ventes. Ça arrive assez souvent. Moi, celui qui me vient le plus à l'esprit, c'est. Si tu joues un cavalier de l'apocalypse avec une grosse épée. Oui, Darksiders. Il était sorti en janvier, février. Il avait fait un hold-up en termes de vente parce qu'il n'y avait aucun autre jeu à ce moment-là.
Ouais, c'est une stratégie comme une autre. Hein. Alors du coup, ce bouquin, est-ce qu'il t'a aidé pour Manufacture 43
Oui, pour frapper des gens. Ouais. Mais on a plutôt fait des formations et quand j'ai lu le bouquin, après l'avoir acheté, bah, j'avais déjà à peu près appris tout dans les formations.
Mais quoi comme formation quand t'étais à l'école? Parce que t'as fait...
Non. Oui, j'ai fait Edwin, non, mais j'ai fait des trucs par le Pôle emploi, au CIC, à Bordeaux.
Des trucs ça, dans c'est genre... efficace.
Oui, ouais, c'était sympa. Ouais. C'était sympa. Appris beaucoup de trucs. Je l'ai fait à Paris à une époque. Entre deux contrats, j'avais une période de chômage et j'avais pris une formation. Création d'entreprise, on était 200 dans un amphi. Et là, j'étais tout seul pendant 3 semaines avec une pro de ça, donc vraiment c'était vraiment formateur.
Et ça, c'est Pôle emploi qui t'a aidé parce que Power Umi, vous étiez tous à temps plein, vous aviez Pôle emploi qui vous aidait, vous aviez un boulot.
On est deux au chômage et un en congé création d'entreprise.
Ça veut dire quoi? Il a arrêté son travail, il dit je prends un temps.
Tu peux faire une pause de 1 an renouvelable une fois dans ton emploi. Tu gardes ton contrat, mais c'est juste que tu touches pas de salaire et t'as plus aucun avantage. Et tu peux partir à l'aventure ou quoi que ce soit et revenir dans ton entreprise si t'as envie. Au bout de deux ans.
Ouais, c'est le bon plan quoi.
Ouais, tu peux le faire partout. J'ai un cousin banquier qui allait planter des arbres en Afrique et qui a fait ça pendant 2 ans pour avoir du biocarburant, quelque chose comme ça. Et il est retourné bosser et puis il sait que dans 50 ans il aura du biocarburant.
C'est Alex l'idée de Power Umi? Comment vous êtes rencontrés tous les trois? Tu me dis trois tarés, c'est pas trop qui c'est. Mais...
Tu viens d'Edwin toi, je crois.
Oui. Du coup, okay. Je connais Alexandre.
Bah moi et Daniel, on est de la même promo. On est promo de 2009 à Squat.
Ah, vous étiez juste avant.
Peut-être de la promo de
2010-2012 comme Alexandre.
Moi, je suis 2007-2009.
Ah ouais.
Voilà. Et Alex avait été stagiaire à Spiders à l'époque où j'y étais, donc on s'était rencontrés étant en première année et on s'est tous les trois retrouvés à Zobo ensemble sur les projets HoloLens et puis voilà, du vas-y on fait notre propre truc.
Et c'est qui a eu l'idée? C'est quoi l'idée de Power Umi? Comment vous l'avez développée? C'est quoi l'univers? Pourquoi l'univers
Alors je pourrais dire pourquoi un shmup? La réponse est parce qu'on pouvait. En gros, un shmup, c'est que 4-5 niveaux, donc en termes de volume, on voulait faire en un an. On est un an et demi, hein. Donc on a déjà raté.
Tu veux dire le Power Umi, tu sais, le petit pitch de base en 3 phrases, c'est quoi déjà?
Je suis pas du tout en train de faire le pitch, je vais demander comment est-ce qu'on a commencé. Si je te dis le pitch, mais vraiment, c'était, on fait un shmup parce que c'est, on a une maîtrise du genre. Au travers du programmeur qui est un gros passionné de ça. On sait qu'en termes de volume de travail, c'est faisable avec nos moyens et dans les délais qu'on s'imposait. Et on a développé le gameplay avant tout le reste, l'univers, etc. C'est venu ensuite.
Pour répondre à sa question, alors, le
pitch en termes de pitch, ben, on est sur un shoot'em up, un jeu d'action. Alors, qui va être à la fois typé rétro, mais dans lequel on a introduit des mécaniques plus modernes. Où, par exemple, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de continu, il n'y a pas de bonus à ramasser, ce genre de choses. Et on a une mécanique tactique qu'on rajoute pareil dans le gameplay pour les gens qui ont envie de se prendre la tête et d'avoir plus de fun dedans. Et en termes d'univers, on est dans un univers Maya qui utilise des tropes science-fiction. Et on est sur la fin.
C'était quoi des tropes, pardon?
Des tropes, des ficelles.
Des ficelles?
Des ficelles narratives.
Ah,
des
scénarités.
Disons que ça reste des statues mayas dans l'espace,
oui, voilà.
Avec des pierres magiques qui volent et tout, et des vaisseaux spatiaux.
Oui.
Et toi, mais là c'est vrai, tu vois, d'habitude dans ce genre d'habitude dans un jeu, ouais, il y avait une idée de faire ça, etc. Mais là, c'est un peu bizarre de commencer par la contrainte quasiment de. que de...
C'est aussi lié qu'on est... Nous, avant tout, on est des techniciens, tous les trois. Ouais. On n'est peut-être pas des créatifs ou des auteurs ou des gestionnaires.
C'est réaliste, au final. Au moins, vous partez pas sur un truc infaisable et c'était bien d'avoir la contrainte. Tu...
Parti du budget, de combien de temps on a, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à nos capacités. C'était ça notre pré-prod. Alors qu'il y en a d'autres qui vont développer leur univers, leur personnage, etc. Mais c'est lié au fait qu'on soit des techniciens.
Bah mine de rien aussi, je veux dire, si le projet marche bien et tout, on pourra dire, bah voyez, les mecs de Power Umi, ils ont commencé par le budget.
Comme quoi.
Non, parce que moi je me souviens, tu sais, je veux pas dire de chiffres en l'air, mais en gros de quasiment tous les gens que je connais, moi y compris, on commence par le concept, ouais. Et puis quelques années plus tard, bah, on est à peu près toujours sur le concept, et puis allez hop là, vers la fin du projet, ouais ça y est, on va créer la boîte, se verser des salaires, peut-être, essayer de gagner de l'argent, on sait pas. Ouais. Non mais c'est pas mal quoi.
Yep. Je pense pas qu'il y ait une vraie recette. Faites ça. C'est là. Nous on a eu beaucoup de mal à trouver notre rythme. Je pense même pas qu'on l'ait encore. Et ce que je dis souvent, on n'est plus Asobo. On n'est pas Asobo. On doit pas penser comme si on était encore chez Asobo.
Surtout que c'est complètement différent. Vous êtes que trois, oui. Et puis vous avez quelque chose qui vous a soudé.
Oui.
C'est pas comme si vous étiez venu pour enrichir une boîte avec vos compétences, quoi.
Oui,
donc,
mais
vous faites forcément.
On est
pas Asobo.
Quand tu es dans une grosse boîte, t'es très spécialisé. Mmh. Et le but, c'est la qualité. On va très vite. Comme on a du monde, on peut aller. Faire plein de choses en même temps et on essaye de conserver ce même comportement alors qu'on est que trois. Mais
Et toi t'étais tout seul pour ton concept de départ, comment
bah
ça s'est
ouais, puisque moi j'ai commencé le jeu indé en 2004 et donc j'ai connu l'époque où même on sortait nos jeux sur Big Fish Games et donc ça change. Et d'ailleurs j'avais un gars pour qui je travaillais, ils faisaient tous du JRPG Maker à l'époque, c'était le grand truc tendance. Et une fois, je me suis foutu de sa gueule en disant « Ouais, mais de toute façon, ton public, c'est la ménagère de moins de 50 ans et tout. » On avait même une ménagère de moins de 50 ans qui est venue nous engueuler sur un forum en disant qu'elle ne se connaissait pas du tout dans la description. Et puis, pour en avoir le cœur net, il a fait un sondage sur son forum. Et en fait, son public, c'est la ménagère de plus de 60 ans. Je vous jure, c'est vrai.
C'est cool, ça.
C'est, bah oui, et apparemment, donc, il a son petit public, donc il fait des jeux régulièrement, pour pas cher. Il commissionne quelques artistes, puis hop, il est créé à la chaîne et... Ouais, il sort son jeu et tout. Et puis, moi, je faisais des outils pour ces gens-là. Donc, faire des outils pour des gens qui gagnent pas beaucoup d'argent, c'est un peu con. Hein, donc, j'étais jeune à l'époque, je m'en rendais pas compte. Et puis, j'étais contacté par plein de boîtes qui me disaient, ouais, enfin, des petits studios qui me disaient, ouais, tu pourrais rajouter ça dans le truc. Bah, je rajoutais, ouais, mettez-moi dans les crédits, ça, j'en aurais plus jamais parlé. Et un jour, je vois l'un des jeux en question sur la page d'accueil de jeuxvideo.com, c'était To The Moon. To The Moon. C'était un jeu RPG Maker qui vendait 1 million d'exemplaires. C'est vrai que mes premiers crédits dans le jeu vidéo sur Mobile Games, c'est To The Moon. Bon, alors à ce moment-là, on avait quasiment tous mis sur la clé sous la porte, abandonné le jeu indé, on était en 2009 à peu près. Et donc, moi j'étais parti en école de jeu vidéo, Super Info Game. Puis après ça, j'ai fait 3 ans de start-up, projet de nouvelles technologies. Je me suis spécialisé en crowdfunding, puisque je me dis, ouais, il faudrait qu'on ait les moyens aussi de développer nos jeux. Et un jour, en regardant un clip musical avec une espèce de divinité égyptienne qui attaque une planète avec des cubes, ça ferait un super concept de jeu, attaquer une planète avec des cubes. Et donc...
c'était quoi ce clip? Un clip musical comme
c'est
ça?
C'est un clip Parachute Ending de Birdy Nam Nam, produit par Justice. Et donc, t'avais comme ça plein de cubes. Et donc, je me suis dit, j'ai essayé de faire un Minecraft non pas en illimité, mais uniquement avec des ressources limitées, avec toute une technologie à base de petits cubes qui peuvent tout dévorer. Et le projet avançant, j'étais à ce moment-là encore employé, mais donc, je travaillais dessus et j'ai... C'est donc au bout d'un moment, je me suis mis dessus à temps plein. Il y a eu une réduction d'équipe dans la boîte où je bossais. Et après 6 mois dessus, je me suis dit, je le montre sur 4chan, ça passe ou ça casse. Et c'est passé. Voilà, en quelques heures, j'ai eu un demi-millier de réponses positives. Donc à l'époque, c'était un god game. Tu pouvais transformer des planètes en vaisseaux spatiaux. Et j'avais une démo technique. Hein. Donc, tu rentrais à l'intérieur des cubes et tu changeais leur ADN. C'est simplement, les gens me disaient, ouais, c'est sympa, mais on veut contrôler les cubes. Le problème, c'est que. C'est un système, il y a pas mal de bugs. Donc je me suis dit, il faut que ça fasse, les bugs fassent partie du gameplay. Donc j'ai laissé aux joueurs la possibilité de programmer leur cube avec donc un petit système. Et comme c'était assez compliqué, j'ai fait un tutoriel de 50 niveaux. Et les gens ont dit, oh le jeu a l'air super, j'adore ces 50 niveaux. Et puis, en fait, c'était juste le tutoriel. Donc ça, c'était il y a de ça 2 ans et demi. Et là, depuis 2 ans et demi, donc je travaille à améliorer ce tutoriel pour en faire un jeu complet.
Ouais.
Et donc là, ça y est, c'est devenu un. Un jeu à peu près carré et tout. Simplement, j'ai promis que je le sortirais telle année, puis j'ai promis l'année d'après que je le sortirais, puis j'ai promis, etc. Maintenant, ma nouvelle promesse, c'est de le sortir avant la fin de l'été. on verra ce qu'il en est.
Mais là, t'as déjà un jeu jouable et tout.
Oui, c'est ça, le jeu est jouable depuis donc 2 ans et demi. Le principe, donc, c'est que tu programmes des robots cubes avec des intelligences artificielles sous forme de symboles. D'ailleurs, j'ai quelques images.
Mais tu peux les montrer, hein. Tu les as pas amenés pour rien, tu les as pas payés et imprimés pour rien.
Surtout la surprise. Voilà. Donc là, par exemple, ça, c'est la direction artistique du jeu.
C'est toi,
le principe, non, c'est une amie. Le jeu est développé à 99% seul, d'ailleurs, pour répondre à ta question. Donc j'ai recruté un duo de Suédois fous qui font des vidéos stop motion avec des Lego. Qui s'appelle Rim Reglage. Ils ont fait une vidéo 8-bit trip vu à 14 millions de fois. Et je leur dis, ouais, je voudrais une piste musicale qui aille avec des petits robots cubes, etc. Donc. Le principe, en fait, c'est de se rapprocher de la matière. Donc c'est donner cette impression un peu pierre précieuse, améthyste et compagnie. Puisque le but du jeu, ça reste de manipuler des formes géométriques assez simples. Pour montrer un peu, hop, ouf. Voilà, le jeu pour l'instant ça ressemble à ça. Et donc le principe c'est qu'on part d'un point A, on va en jusqu'à un point B en rassemblant des petites étoiles. Et donc au début on a des simples instructions qu'on met les unes à la suite des autres, genre avance deux fois, etc. Puis au bout d'un moment on crée des intelligences artificielles. Là par exemple ici j'ai une petite intelligence artificielle avec deux branches. En fait il y a une branche j'ai pas vu de mur, je vais tout droit, et une branche j'ai vu un mur, je tourne à droite. Donc avec ça, on va faire un petit robot cube qui est capable de détecter un mur, de tourner à droite. Le niveau d'après, il voit un mur, il monte d'un cran. Et il va par exemple être capable de monter un escalier. Donc avec des filaments, quelques symboles à peine, on peut créer des comportements totalement différents.
Mais alors il tombe automatiquement là. Il a vu le mur, il va à droite, mais il va tomber tout de suite, tu dois pas le coder ça.
Et tu peux le dire, et dans des niveaux plus avancés, tu peux dire que quand il voit un rebord, il peut pivoter automatiquement pour marcher sur les murs, les plafonds.
Et j'ai par exemple, il a accès à là. Est-ce qu'il peut rouler là?
Dans ce niveau-là, il ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas suffisamment d'instructions. Par contre, très souvent, il y a des gens qui me disent « Ouais, il y a des choses que j'aurais voulu faire. C'est très bien la forme actuelle pour apprendre, mais on a cette grille qui est imposée. » Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'il y aura possibilité justement… Alors déjà, en interne, il y a la possibilité d'avoir des solutions secrètes. C'est-à-dire que tous les niveaux, tu peux les terminer sans toucher les étoiles. Et ça, en fait, mais c'est au début, tu ne le sais pas. Au début, tu crois que le but du jeu, c'est de ramasser toutes les étoiles. Puis au bout d'un moment, tu regardes, mais c'est bizarre, il y a des joueurs qui ont trouvé des solutions, sans toucher les étoiles, quand je touche pas les étoiles, il se passe quelque chose et tout. Et au bout d'un moment, tu comprends que tu as accès à une espèce de New Game Plus qui est caché à l'intérieur du jeu lui-même, c'est à n'importe quel moment du jeu, tu peux dire, mais en fait, je peux terminer tous les niveaux du jeu sans collecter les étoiles. Sauf qu'évidemment, c'est des solutions qui sont cachées dans l'environnement, avec donc justement, parfois, il faut passer en dessous des niveaux, il faut faire plein de choses que tu apprends à faire en fait plus loin dans le jeu. Le principe du jeu, en fait, c'était de se dire que le problème que j'avais avec un jeu vidéo aussi didactique et aussi contrôlé, c'est que finalement, tu es sans cesse en train de manipuler le joueur. C'est-à-dire que tu fais que du tutoriel et donc il y a une solution qui est prévue et le joueur doit faire cette solution-là, sinon il ne l'apprend pas. Alors je me suis dit au bout d'un moment, non, il faudrait que j'ai un moyen de récompenser le joueur qui veut chercher d'autres solutions. Et donc le principe c'est devenu donc que quand tu as terminé le jeu une première fois, tu t'aperçois qu'en fait tu as aidé le grand méchant, c'est un classique. Hein. Et donc, mais que tu dois refaire le jeu alors sans collecter les étoiles. Et là tu t'aperçois que même les tout premiers niveaux du jeu, c'est où tu apprends à marcher en ligne droite, et là tu as appris à faire des boucles, tu as appris à te décaler. Donc tu vas pouvoir par exemple slalomer en faisant des boucles infinies et des choses comme ça.
Ah parce que dès le début du jeu tu as les commandes en main, toutes les commandes en main.
Toutes les commandes en main. Et donc c'est d'ailleurs une sacrée surprise pour certains. D'ailleurs il y a des youtubeurs qui jouent les 30, 40, 50 niveaux, qui se disent mais c'est bizarre, comment ça se fait que j'ai fait la moitié des niveaux. Et là ils découvrent qu'il y a les solutions secrètes et qu'ils peuvent tout refaire tout le jeu. C'est pour ça que je parle d'un New Game Plus caché dans le jeu lui-même. Le principe philosophique qu'il y a derrière c'est que toute éducation est nécessairement une forme de manipulation, mais tu dois accepter d'être manipulé pour apprendre. Et la question c'est jusqu'où tu acceptes d'être manipulé et avant justement de te libérer et de créer ton propre chemin.
Et tu l'as proposé à des écoles ou dans des...
Ben,
je pensais pour des personnes qui voudraient apprendre à programmer de façon ludique.
Au début, je pensais m'adresser vraiment à ce public de niche qui sont donc les femmes de Space Jam, Human Resource Machine, Infinity Factory, tout ce qu'on appelle les jeux de programmation. Et donc, je pensais m'adresser aux développeurs. D'ailleurs, ça ne trompe pas. Hein, généralement, quand je suis en festival, à la fin du festival, il y a à peu près tous les développeurs du coin qui ont testé le jeu au moins une fois, et surtout les programmeurs. Mais j'ai eu l'occasion d'être invité dans un endroit que j'aurais jamais pensé possible, comme la Cité des Sciences.
C'est cool.
Et la Cité des Sciences, c'est très cool. Hein. Il se passe une pièce, des ordinateurs et tout. Alors, le public est un peu jeune, hein. T'es sûr, du 4, 6, 8, 10 ans, etc. Mais j'ai testé avec des gamins. Et je me suis aperçu que cette volonté de base que j'avais de créer une espèce de système utilisable par des enfants de 12 ans, il y a vraiment des enfants de 12 ans qui peuvent l'utiliser. Et après avoir donc m'être adressé à ce public de niche, donc qui sont les programmeurs, développeurs, disons des adultes qui aiment bien les jeux de réflexion un peu complexes, j'aurais ce deuxième public plutôt sur tablette et mobile, donc pour les gens qui veulent vraiment apprendre la programmation, découvrir. Là, j'ai eu l'occasion de faire des interventions en médiathèque, parce que c'est un jeu de programmeur, ça prend pas beaucoup de ressources, c'est bien optimisé là-dessus. Ce qui est parfois un peu ridicule vu le nombre de cubes qu'il y a à l'écran. Et donc ça tourne sur des ordinateurs de médiathèque, ce qui fait que je peux arriver dans une médiathèque, installer ça rapidement sur des ordinateurs et tester.
Ça fait combien de temps que tu bosses dessus?
Là ça fait maintenant 2 ans et demi à temps plein, et avant ça c'était 6 à 9 mois à temps partiel. Et donc en fait j'ai développé le jeu.
Ça fait 2-3 ans quoi.
Trois ans à peu près, plus de 3 ans maintenant. Donc à la base c'était un scope assez gros, c'était vraiment j'ai des démos, tu peux voir dans le trailer, avec 1 million de nanomachines qui s'assemblent pour former un cube gigantesque. Okay. Et simplement donc je peux pas proposer ça directement à un joueur, ni même proposer un gameplay qui va avec ça directement. Ce qui fait que cet aspect de technologie qui permet de tout faire, je l'ai découpé en différents morceaux, et donc je propose ce premier morceau donc sous la forme d'une espèce de grand tutoriel.
Et tu finances tout ça comment, le développement?
J'ai mis beaucoup d'argent de côté, puisque ça fait 13 ans donc je suis dans le développement indé, je sais ce qu'il en est. Et puis surtout, je suis logé gratuitement chez ma grand-tante dans un grenier, ce qui me permet de ne pas avoir à payer le loyer. Puisqu'un vrai jeu indé, ça se fait dans un grenier, une chambre, une cave. Voilà, et puis aussi j'ai été bien aidé par Pôle emploi, parce que je leur ai expliqué mon projet, notamment le fait que j'allais créer mon emploi en créant ma boîte, et donc ils m'ont pleinement soutenu. D'ailleurs tu parlais ces programmes d'aide et compagnie, je suis allé à la CCIP de Paris, et donc là il y avait des formations, en plus c'est pas très cher, c'est genre 30-40 euros, et t'as une réduction en plus de ça si t'es chômeur, et là donc on était dans des petits groupes, genre 20-30 personnes, et on faisait donc quelques conférences et quelques apprentissages. Bon, généralement, nous répéter toutes les 10 minutes. Bon, alors, c'est comme ça aujourd'hui, peut-être que la prochaine loi fiscale va changer, mais en gros, ça te permet déjà de tricoter un peu, démystifier tout et te dire, ah ouais, tiens, c'est comme ça que ça marche.
C'était des formations sur quoi, créer une entreprise, sur des marchés à la banque
Il y a créer l'entreprise, les différents statuts, et moi, ça m'a aidé à voir plus clair. Au début, je pensais faire auto-entrepreneur, je savais que j'allais pas le faire, je me disais peut-être une EURL. Sauf que l'entreprise unipersonnelle, à responsabilité limitée, c'est plus fait pour les artisans qui veulent protéger leurs biens propres. Et donc je me suis orienté plutôt vers une SASU. Donc c'est comme une SAS. Alors c'est comme une SAS.
Il est pas bien Tony, il est pas bien.
Je vais résumer quelques termes simples. Enfin, je fais genre je m'y connais alors qu'en fait j'ai tout appris. Mais d'habitude la SAS c'est quand tu groupes à plusieurs personnes, tu dis voilà toi tu as 50% départ, moi j'ai 10% départ, lui il a 20%, etc. Et la SASU, c'est la même chose, sauf qu'il y a une personne qui possède toutes les parts.
Okay. Donc, toi, c'est une SASU boutique. Désolé, tu parles pas depuis.
Moi, je vous écoute.
Faut pas que je sois timide, hein. Faut pas avoir peur de moi. Je vais pas te manger.
Moi, je fais du arcade racing.
Tu fais du
arcade racing.
Alors.
Je fais un jeu qui s'appelle Tube.
Non, je vois pas ce que c'est. J'ai cru voir un jeu l'autre jour.
Moi, je joue après, c'est pas un souci.
Bah, tu viens d'où, toi?
Moi, je viens de Paris, et en fait, le jeu vidéo indépendant, j'ai commencé ça l'année dernière. Avec avec un pote que j'avais rencontré en école d'ingé. Et à la base, nous, on fait de l'optronique. Donc, rien à voir avec le jeu vidéo. L'optronique, c'est des lasers, du traitement du signal. On fait des capteurs pour des missiles qui s'écrasent sur des enfants.
Ah, c'est génial, c'est très
donc, j'ai décidé de ne pas faire ça. Et après, je me suis cherché, j'ai fait d'autres trucs. Et mon pote, qui lui, entre-temps, était devenu journaliste de jeux vidéo, il s'était mis en tête de faire un jeu et il m'a proposé. Et donc, on s'est lancé là-dedans en 2015, fin 2015. Et donc ça va maintenant faire un peu plus d'un an qu'on bosse sur le jeu. Mais comme c'était notre premier projet, en fait, on va dire que on a fait un premier jet et c'était dégueulasse, c'était nul, on voulait faire plein de trucs et tout était
pourri.
Un peu
comme une première expérience sexuelle.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Très décevant.
Voilà.
Et donc finalement, on a tout repris à zéro. Enfin, on a fait un autre jeu, on a fait un jeu mobile politique qui s'appelait 49.3.
Ouais.
Un jeu sur...
dans le temps.
Un jeu dans l'air du temps où tu incarnes un mouvement militant qui doit prendre le pouvoir et renverser le gouvernement mondial. Et ça nous a changé l'esprit et ensuite on a recommencé le jeu à zéro. On a tout repris, tout refait et là c'était vachement mieux. C'était beaucoup plus simple.
Et vous avez plus repris 49.3 ou le jeu tout pourri, tout moche?
Non, le jeu, le jeu de course tout pourri. Parce que...
Et c'est devenu ça.
Et c'est devenu
YouTube.
Ça. Ouais, voilà. Et c'est devenu YouTube. Donc un jeu dans un univers rétro-futur et qui mixe donc. Qui mixerait les jeux comme F-Zero, Wipeout, avec un level design à Super Meat Boy, donc des niveaux très courts, mais hyper difficiles.
Je vois pas le lien avec le design Super Meat Boy, c'est la difficulté?
C'est la difficulté et le fait que c'est du die and retry, quoi. Donc un jeu comme F-Zero, en fait, tu vas tourner sur ton circuit et tu vas jamais vraiment mourir, tu vas toujours revenir sur la piste jusqu'à ce que tu la finisses. Ouais. Alors que nous, si tu meurs, tu redémarres au début, à chaque fois.
Et Wipeout, c'était pas un peu ça, mais pas qu'un checkpoint. Je me rappelle plus trop, mais pas un checkpoint. Et
j'ai pas trop joué à Wipeout,
mais ça restait quand même du jeu de course. Et c'est vrai que le but du jeu de course, c'est que tu termines la course, tandis que le but du die and retry, c'est
de finir le niveau. Ouais. Sans mourir.
Et le Sumper, là, vous l'avez à un moment donné, quand j'ai vu votre jeu, j'ai dit ça me fait trop penser à Sumper, tu sais, le petit sorte de scarabée futuriste.
Alors, Sumper, c'est pas un jeu de course, c'est un jeu de rythme. C'est un jeu où tu dois appuyer sur la bonne touche au moment où t'arrives, où elle arrive. Quoi.
Vous, il n'y a pas de rythme, la musique, elle est juste pour habiller.
C'est ça.
C'est vrai qu'il y a un certain lien dans le sens où tu répètes ta séquence que tu as appris par cœur, tac, 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 tac.
Le Die and Retry, c'est un jeu où ça devient presque un jeu de rythme quand on a le niveau dans la peau et qu'on sait exactement à quel moment appuyer sur quel input.
C'est le genre de jeu où tu essaies d'être dans le flow, c'est ça? Ou t'as la transe qui arrive au bout d'un moment et...
C'est le but, ouais. Alors moi, je suis pas le pro gamer parce que c'est mon pote qui était un malade de Mario Kart. Et que ça a toujours été son ambition de faire un jeu de course. Et donc lui, il est vraiment sur la recherche du comme tu dis, du flow pour arriver à créer un level design qui va obliger le joueur à appuyer sur les inputs avec une bonne cadence.
Finalement, vous êtes des impulsifs. Vous n'avez pas suivi de formation de game design, ni bossé professionnellement dans le jeu vidéo.
Pas du tout. Non, mon pote, il a codé, des trucs top secret sur les missiles nucléaires.
Pour de vrai?
Ouais, non, il connaît des trucs sur des expériences.
C'est plus facile d'être classé secret défense en France que d'avoir un crédit pour acheter une maison.
Ils sont très nombreux.
Juste pour dire,
très nombreux. Il n'y a rien d'exceptionnel.
Je suis pas là-dedans.
Mais donc, ouais, il a commencé Unity l'année dernière. Il a commencé en JavaScript et puis il s'est rendu compte que c'était dégueulasse. Et puis il est passé au C#. Et moi, j'ai commencé à faire j'ai appris à utiliser Blender pour faire de la 3D l'année dernière. Donc, ouais, on est tout frais sur là-dessus, quoi.
Alors du coup, on peut vraiment utiliser Blender, mettre dans un jeu. Je sais pas, pour moi, Blender, c'est une étape intermédiaire pour te faire un truc de ouf, et ensuite tu utilises 3DS Max ou quoi, je sais pas.
Blender,
c'est aussi bien 3DS Max, hein.
Moi, j'ai l'impression que tu fais des beaux visages, mais qu'il y a trop de polygones pour vraiment après être utilisé dans un jeu. Mais moi, je suis peut-être
il faut faire de la rotopologie.
Moi, je suis graphiste 3D, attention, c'est mon boulot. Si on part là-dessus, attention, on est encore là demain. Mais il y a un problème avec...
Moi j'ai des visages en deux polygones.
Voilà. Oui, bah oui. Avec tes cubes.
Toi ça va.
C'est des textures tes visages.
Tu sais, il y a un gros débat sur l'open source et les logiciels avec des grosses licences. Et j'ai toujours été contre l'open source moi parce que je disais c'est de la merde. Et que ouais, c'est trop bien les grosses licences, sauf que si on prend Photoshop ou 3ds Max, c'est des logiciels qui commencent à atteindre leur maximum et ils progressent de moins en moins. Et les soft open source les ont rattrapés aujourd'hui. Ils ont mis 10 ans. Blender a mis 10 ans pour atteindre le niveau de max en termes d'utilisation, etc. Mais il offre peut-être même quelque chose de plus intéressant aujourd'hui.
Tu disais, puisque vous venez d'Asobo, donc vous avez connu les trucs vraiment professionnels. Maintenant, vous faites votre propre jeu, vos propres outils. Oui. Vous utilisez quoi? Les mêmes outils qu'à Asobo? Ou alors vous utilisez justement de l'open source?
Moi, j'aurais aimé qu'on passe sur Blender. Sauf que comme on avait notre contrainte de temps, on pouvait pas se retrouver sur une période où il faut faire de l'apprentissage. Voilà.
Surtout se retrouver avec des surprises, parce que très souvent, quand tu dis ouais, tiens, c'était l'outil pour aller, ouais, ok, il fait 95% du boulot. Puis le jour où tu arrives au 5%, bah t'es.
Voilà. Blender, ça aurait été intéressant aussi en termes de. Pour la communication, de dire on utilise Blender pour faire nos graphismes. C'est cool de dire qu'on a un soft open source.
D'ailleurs, on a des collègues indés qui font des jeux sous Blender.
Oui, moi je vois, mais là je pourrais pas t'en citer. Mais j'ai vu des jeux sortir avec Blender ces dernières années, ça m'a marqué. Et au début, on voulait partir sur Maya parce que la licence mensuelle est moins chère que Max.
Puis ça faisait un petit jeu avec moi avec les Mayas, quoi.
Voilà,
c'est...
Voilà. On fait des Mayas sous Mayas.
Mais au final, on est tous les deux graphistes, on touche notre bille en 3DS Max, donc on est resté là-dessus.
Et la différence Maya Max, c'est...
Je pourrais pas te la dire. J'ai essayé Maya, je trouve que c'est de la merde, mais c'est juste parce que je suis un vieux con. Mais
t'as tes habitudes.
Voilà, j'ai mes habitudes. Il y a des avantages sur Maya et des avantages sur Max. Moi, je suis vraiment habitué Max.
Quand même, en graphisme, il y a un truc que je sais faire avec de l'open source, c'est le vectoriel. Puisque plutôt qu'illustrateur, j'utilise ouais. Inkscape. Voilà, donc les gens qui connaissent un peu le. Ouais, normalement, il y a Notepad++, FileZilla ouais. Et tout le reste. Mais en gros, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui n'a aucune compétence graphique, quand j'ai besoin de faire le flyer ou les choses comme ça, moi, je peux retoucher facilement trois fois. Et c'est vrai qu'Inkscape, par exemple, comparé à Illustrator, ok, tout ce qui est les filtres et les machins compliqués, ça, je saurais même pas où il faut cliquer dans l'interface. Ouais. Par contre, les manipulations de base, ils sont. Justement, ils ont bien travaillé l'ergonomie là-dessus, ce qui fait que je peux facilement cliquer un peu partout.
Après, le logiciel, c'est un moyen. C'est un outil que tu utilises pour faire quelque chose. Quel que soit le truc que tu prends, si tu arrives à faire quelque chose de bien, bah, tu arrives à faire quelque chose de bien.
C'est comme les gens qui font de la calligraphie voilà. avec les mêmes stylos pourris que toi. Tu dis, oui. Putain, mais le problème, c'est pas mon stylo, en fait, c'est moi, quoi.
T'as vu, ils font des trucs extraordinaires sur Paint. Hein.
Par, ouais. par contre, moi, je... Il est où le tavernier
oui, mon verre est vide. Mais c'est vrai, j'allais dire joue.
Mon verre est vide.
J'étais en train de faire ça parce que j'allais dire joue. Moi, je vais aller commander. Hein je suis sympa, quand même.
Je suis toujours impressionné quand je vois des
gens... Juste,
des...
Attends. Vous voulez quoi
ouais, la même, la petite sœur.
La petite sœur, le grand frère.
Même chose, ouais.
Moi, je vais jouer sur mon coca. Voilà.
C'est bon. C'est tu bon, bois lentement, toi. Tu parles fort.
Et
tu me dis ce que t'en penses. Tu fais un petit récap et tout. Moi tu lui poses des ouais, c'est
parce que tu bosses dessus.
En charge. Non, parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps d'y jouer.
Okay.
Et c'est à toi de donner ton avis.
Je vais lancer une autre conversation pendant qu'elle est pas là, mais
c'est ton anglais.
Puisque c'est marrant, parce qu'on a quand même trois profils très différents.
Ouais.
C'est quoi pour toi être indé?
Pour moi,
indé de jeux vidéo.
Pas indé de
premier. Ouais, temps. Pas de voilà.
Pas juste avoir ma boîte avec mon pote tout seul, voilà. Et être indépendant quoi.
Ouais.
Dev
de jeux indie.
Bah c'est dur déjà.
Breaking news.
C'est un peu comme être un pirate, je sais pas.
Pirate sur la mer
Pirate
avec, en bois.
Je sais pas, tu sais, par rapport au... Parce qu'en fait, en ce moment, je fais un autre job pour pouvoir me ouais. payer. Et donc je suis dans une boîte qui est pas loin d'ici, là, où c'est une sorte d'incubateur de start-up. Où il y a plein de mecs, ils montent un peu tous les... Ils ont tous des start-up avec des concepts qui sont tous dans le digital, les nouvelles applications et tout. Et je trouve que c'est... Ils sont un peu tous formatés sur une certaine vision de leur truc, alors que dans le jeu vidéo, je trouve qu'il y a quand même pas mal de gens qui cherchent à tracer leur propre route et qui cherchent pas forcément à suivre la vibe ou le mouvement et qui font un peu leur truc quoi.
Et toi Marc, c'est quoi être dev de jeu indé?
Alors, pour moi qui ai connu ça longtemps avant qu'on parle de jeu indé, ouais. À l'époque on parlait surtout de jeu amateur, mais en fait on se considérait comme auteur. C'est-à-dire ouais. qu'on faisait du jeu d'auteur, comme il y a du cinéma d'auteur. Et le point que j'ai regretté quand j'ai vu décoller comme ça le jeu indé, c'est que finalement c'est plus la forme, le fait de faire des jeux à petit budget qui est sorti plutôt que faire des jeux à hauteur. Je vais pas sortir des grandes phrases du genre le jeu vidéo indépendant c'est fourvoyé ou un truc comme ça, mais ce que je regrette c'est que parfois il y a des projets qui sont faits par trois personnes, techniquement c'est nickel et tout, simplement tu as seulement trois mecs qui ont bossé sur le projet, tu vois pas d'auteur. Tu vois, tu vois pas de style, de patte particulière. Si le mec faisait un deuxième projet, tu verrais pas la transition. Tu verrais pas que c'est la même équipe ou les mêmes gens, les mêmes auteurs finalement.
C'est un truc quand même assez français la notion d'auteur. Parce que moi j'avais fait la comparaison avec la BD française, enfin franco-belge et les comics américains. C'est une licence qui appartient à plein de gens. En fait, il n'y a pas vraiment. Après, si, il y aura la patte d'un auteur, mais. Enfin, c'est une question franco-française, je sais pas comment dire, mais
moi, c'est peut-être parce que je suis français, mais cette notion d'auteur, c'est quelque chose que j'interprète plus facilement que la notion d'indé. Parce que tu vois, si on prend le rock indé ou la musique indé, c'est souvent les trucs qu'on sait pas trop où les caser, on les balance, on dit oui, c'est du rock indépendant. Si on prend le porno indé, pareil, ils savent pas trop ce que c'est, ils les mettent là-dedans. Et c'est souvent ça, pour, dans d'autres médias, quand ils parlent d'indé, c'est des trucs qu'on sait pas où les classer.
Ah, c'est moins une notion d'auteur, et d'ailleurs, parmi les différents trucs que j'ai testés avant, il y avait notamment la bande dessinée. Heureusement, voilà, Super Castor et Super Mouton qui combattent le crime, j'ai pas continué dessus. Mais en gros,
c'est vrai que... un jeu qui s'appelle Super Castor et Super Mouton.
Qui s'appelle Super Castor et Super Mouton.
Il est plein de ressources.
Et comme j'étais dans une toute petite ville de 7000 habitants, j'ai eu un article dans le journal local et les gens qui connaissaient rien, ils ont cru que j'avais gagné un grand prix. Ou...
Ok.
C'est ouais. Ça. Mais alors que j'ai juste un truc étudiant, mais en gros, là, voilà le truc d'auteur. Et là où je nous trouve mieux lotis dans la bande dessinée, plutôt dans le jeu vidéo, c'est que quand tu fais de la BD, c'est avant tout des auteurs. C'est pas vraiment une industrie avec des entreprises, des studios et compagnie. C'est vrai que si tu réussis pas à gagner ta vie en tant qu'auteur, dans le jeu vidéo, bah, tu peux aller bosser dans une grande boîte. C'est-à-dire que dans la BD, tu n'as pas de studio qui fait de la bande dessinée à la chaîne ou compagnie.
Moi, je fais un jeu qui n'est pas un jeu d'auteur. Mais je fais un jeu qui on sait ce que c'est. Donc, est-ce qu'on va dire que c'est un jeu indépendant?
Finalement, c'est un jeu à petit budget.
C'est un jeu à petit budget. Donc, est-ce qu'on va dire que les jeux indés aujourd'hui, c'est des jeux à petit budget?
D'après moi, en fait, il faudrait, tout comme il y a différents groupes de projets indés, il faudrait avoir différentes définitions.
Ouais.
Et en gros, d'après moi, on appelle jeu indé ceux qui essayent de se définir en dehors du triple A. Alors ça devient très gros.
Non, mais...
Je vais descendre. Mais en gros, aujourd'hui, on disait, déjà il y a une demi-douzaine d'années qu'il n'y a plus qu'un seul genre, c'est l'action-aventure. Parce que tout le monde faisait l'action-aventure, maintenant on dit que c'est l'action-aventure en open world, que c'est le plus gros, et t'as les jeux, quelques jeux à licence, quelques gros machins. C'est-à-dire qu'à peu près n'importe qui fait quelque chose de différent de ça peut dire on fait un jeu indépendant. Ou un jeu triple I ou compagnie. Mais disons que généralement c'est possédé par des grosses boîtes. Après, t'as l'autre secteur plus libre, où c'est des développeurs qui font un jeu vidéo comme ils le veulent, en ayant moins de contraintes et de pression d'éditeur. Et après ça, disons que tu passes dans une autre catégorie, après moi, qui est plus du genre par exemple de Power Rumi, qui est de dire qu'on fait le jeu qu'on veut, et c'est vrai, c'est un peu difficile pour financement et tout, mais finalement on est libre. Et après moi, il y a un truc encore plus obscur, encore plus petit, c'est les mecs qui sont des auteurs, et qui se disent, pour moi ce qui compte c'est de m'exprimer en tant qu'auteur, et cette façon de s'exprimer c'est un jeu vidéo. Et je connais d'ailleurs des gens qui le font à l'extrême, puisqu'ils disent même, je refuse de vendre mon jeu vidéo. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'à partir du moment où ils vendent leur jeu, mais en fait ils auront des revenus, donc ils seront dépendants de ces revenus, et donc dépendants de la satisfaction du public. Et oui,
c'est un peu bête, parce que dans ce cas-là, alors tous les pentes, c'est pas des auteurs, parce que le moment où leur œuvre elle a été achetée. Enfin,
c'est très compliqué de faire la part des choses entre je fais liberté totale en tant qu'artiste, limite je n'ai même pas besoin de vendre mon œuvre, et je dois vendre mon œuvre, donc j'ai certaines contraintes. Et c'est un peu ça. Et je connais pas mal d'auteurs qui font des très bons jeux, mais qui disent jamais je ne commercialiserai mon jeu, etc. Il y a notamment un jeu qui s'appelle Off, qui est de la communauté RPG Maker francophone, qui a été traduit en anglais grâce à mon logiciel de traduction de jeu, sur lequel j'ai gagné 25$ en tout, mais qui a servi d'inspiration, qui avait une bonne scène cosplay et compagnie, et qui fait
un jeu d'auteur qui a eu une scène cosplay. Accroché à lui.
C'est ça.
Non, il va falloir que tu me parles de ça.
Et ça a servi, paraît-il, des inspirations de l'Undertale.
Ok.
Donc tu vois, mais c'est des trucs vraiment. Et j'en ai parlé à l'auteur, je lui dis, mais alors, mais t'as fait un jeu qui marche, t'as une scène cosplay à l'étranger, même t'as d'autres projets qui sont inspirés, ça a super bien marché. Est-ce que tu veux en faire un deuxième? Est-ce que tu vas le commercialiser? Le mec il fait non, je peux pas, je peux pas faire un jeu et qui finalement où je ne sois pas 100% libre. Du simple fait que je dois le vendre.
C'est une bonne nouvelle, ça.
Pour ça que je dis que c'est super extrême.
Ouais, ouais.
Pour ça que je dis que c'est un cas super extrême et très obscur. Et tout quoi. C'est vraiment un cas. Et généralement, on les connaît même pas, puisque ils font des jeux beaucoup trop obscurs.
Merci. Okay. Mais ok. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose où j'ai un souci sur cette notion de indie ou indé du jeu vidéo. Parce que on était à Évry, je me suis retrouvé à côté d'anciens étudiants à moi. Qui ont gagné le prix d'ailleurs. Voilà.
Parce que
Non, mais ça m'a fait marrer. Mais tu vois, c'est. ça, pour moi, ça va faire des amateurs, mais leur jeu est génial. Donc j'ai du mal à me classer, à comprendre où est-ce que je suis rangé.
Il y en a qui disent indé égale pas d'éditeur, mais par exemple, là, le jeu qui a cartonné qui s'appelle Life is Strange, ils se sont toujours considérés comme indé au début.
Ouais, ça c'est...
Mais bah, ils essaient pourtant, ils ont dans la démarche, je fais un jeu d'auteur quoi.
Ouais,
je...
Ils sont indé très riches.
Ils sont indé très riches, mais.
Avec très gros budget, mais.
Oui,
mais pourtant, ils se considèrent comme indé et ils ont une démarche d'auteur, ils ont une démarche de faire un jeu original.
C'est pour ça que je parlais de triple I avec finalement, où on se déclare comme indépendant dès qu'on fait un jeu qui sort de la grosse case, jeu d'aventure, action à la troisième personne avec open world et scène et phase énigme. Et qu'il soit pas non plus une simulation ou un jeu de sport.
Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un fossé entre Sky Bolzac, c'est fossé, ouais. Des anciens étudiants qui font leur jeu.
Mais disons que d'après moi, faut vraiment pas définir ça sur le plan des compétences techniques ou sur est-ce que le mec vient du jeu vidéo ou pas, parce que finalement, c'est plus est-ce que tu as des contraintes financières, est-ce que tu as des contraintes extérieures à ta créativité, comme par exemple un éditeur qui t'impose des choix, ou est-ce que finalement tu es 100% libre. Et d'après moi, ce 100% libre, dont on n'entend pas parler d'habitude, c'est les gens qui veulent être tellement libres qu'ils refusent même de vendre leur jeu.
C'est un concept, hein, s'ils veulent rester.
Donc on revient au truc que je disais, les indés, c'est là où on met tous ceux qu'on ne sait pas ce que c'est.
Ouais, c'est ça, mais limite, faudrait faire un peu comme. Plutôt que de faire comme l'échelle des. Comment ça s'appelle déjà pour la température, il y a les Celsius et il y a l'autre.
Fahrenheit.
Voilà, où le mec simplement il a dit oh là là, qu'est-ce qu'il fait froid ici, ça doit être la température la plus froide existante. Il a dit que c'était son zéro. Mais bah là, disons que si on définit le jeu vidéo, disons 0% indé comme étant carrément le travail de commande, le travail d'éditeur et tout, et le jeu comme 100% indé, qui est le mec qui carrément refuse de commercialiser son jeu pour rester 100% libre, bah on pourrait comme ça définir une échelle qui va de 0 à 100 et dire tel jeu est 40% indé, tel jeu est 60% indé et tout. Ça n'aurait pas vraiment de sens et tout, mais ça donnerait déjà en quelque sorte une espèce d'échelle. Donc peut-être qu'il faut définir quelques critères comme contraintes extérieures à l'équipe, contraintes financières, et comme ça essayer de déterminer. Après,
il y a trop de variables. T'as la variable du nombre de personnes, t'as la variable de l'expérience, t'as la variable du budget, t'as la variable
c'est
de
l'histoire. C'est pour ça que limite, je trouve que la définition la plus simple, ça reste la volonté. D'après moi, enfin, les deux critères qui ressortent, c'est question de budget et la question d'auteur. Est-ce que le jeu, il y a une notion d'auteur, de création, de vouloir sortir du lot, faire quelque chose de différent? Ou est-ce que finalement... Après, et le problème, c'est que quand tu réfléchis trop, quand tu suranalyses, bah, tu tombes sur une espèce d'analyse de règles et compagnie. Et c'est quasiment, t'essayes de c'est des gens très intelligents et tout qui font des diagrammes sur Excel et compagnie qui définissent comment devrait être le jeu. Alors, est-ce que c'est vraiment de la créativité toujours à ce moment-là ou pas, on ne sait pas.
Moi, je propose que pour définir qu'un jeu soit indé en France, il faut qu'il soit financé au moins à 50% par le Pôle emploi.
C'est vrai, comme
que 50% de son budget vienne du Pôle emploi. Là au moins on a un truc, c'est pas dépendant de la notion d'auteur. C'est pas dépendant de la notion d'auteur, c'est pas dépendant de la notion de commercialisation, de succès, de. Voilà. Là on a une définition, on sait que c'est des pauvres.
Un dé égale pauvre.
Voilà.
Bah, disons qu'en quelque sorte, là où c'est un raisonnement intéressant et que ça a du sens même. C'est que je vais pas essayer de suranalyser ta blague pour en faire quelque chose de cohérent, mais en gros, c'est vrai qu'à partir du moment où t'as pas d'argent, t'es obligé de te démarquer sur le point de vue de l'idée, et notamment à quel point, disons, finalement, tu te rapproches du joueur. D'ailleurs, c'est des points que je regrette un peu aujourd'hui avec le développement indé, c'est quand tu t'aperçois de ce qu'il en est du jeu dématérialisé. Nous, on est très contents de faire du jeu dématérialisé parce que ça nous permet d'éviter de faire appel à un éditeur pour payer voilà, les fabrications, la distribution et tout le reste. Mais quand tu essaies d'être en contact avec ton public, tu te rends compte que finalement, les gens, ils sont très peu attachés au téléchargement. Ils ont téléchargé ton jeu et tout, mais ils sont pas attachés. Ils vont pas prendre ton téléchargement et le mettre dans la bibliothèque. Et alors que je trouve que d'autres milieux indés, comme par exemple justement plus la BD, la musique et tout, ils ont le support physique, ils font leurs séquences de dédicaces, ils sont proches du public. Je peux parler d'une notion de 30 ans.
30 ans ? Moi je suis un peu plus vieux, de 35-36, et j'ai un attachement aux objets physiques. Mais j'ai l'impression que sur les générations qui sont plus jeunes que nous, il y a moins cet attachement, puisque ça a déjà disparu. C'est les DVD, les machins, des cassettes.
Aussi, avec voilà. Des matériels digitales. Ouais.
Mais disons que pour du public de Nice, ça aurait du sens. Et la raison pour laquelle je parle de ça dans la notion d'indépendant, c'est que finalement, être indépendant, c'est aussi être proche de ton public. C'est aussi la possibilité de pouvoir aller voir voilà, le bar du coin, d'autres gens, les rencontrer en vrai, sortir ton ordinateur portable, montrer ton jeu, ce genre de choses, créer du contact. Et on arrive à des points un peu délirants, où, puisque je m'occupe de faire des soirées, des festivals, et des trucs comme ça. Et je vais voir des développeurs indépendants, je leur dis, voilà, je t'invite, est-ce que tu peux ramener 3 développeurs ? Ils me disent, aucun problème. Je leur dis, est-ce que tu peux ramener 3 joueurs ? Ou 2 joueurs, ou même 1 joueur, ils font non. Je dis, mais c'est dingue, t'as vendu 20 000, 30 000 exemplaires de ton jeu, tu connais pas un seul joueur à Paris physiquement ? Et non. Et ils expliquent que voilà, ils sont obligés de payer 15 000 euros de relations presse pour être finalement mis en contact avec les gens qui vivent dans le quartier. Et en quelque sorte, on s'aperçoit que ce qui nous avait rendu service au début, d'être indépendant, d'avoir une internalisée écoute, ça se finit par se retourner contre nous parce qu'on a perdu ce contact physique, ce contact humain avec les gens. On se retrouve à bosser à nouveau avec des techniques qui sont utilisées par les gros, comme les relations presse, les éditeurs et compagnie. C'est triste d'avoir un développeur indé qui te fait un post-mortem en te disant on lui a dépensé beaucoup d'argent pour les relations presse, on fait appel à un éditeur, aujourd'hui on pense que c'est obligatoire pour faire du jeu indé.
Mais ça, c'est peut-être valable avec toutes les industries de nos jours. Hein. Où il y a une perte de la relation humaine de tous les commerces.
C'est l'inverse. Enfin, en gros, c'est à double tranchant. Quoi. Avec le numérique, on peut contacter très vite n'importe qui et avoir vite une relation avec la personne en envoyant un mail, un message. Juste
disons,
un.
Superficiel, disons que c'est en quelque sorte.
Ça l'est en même temps, non, puisqu'après, tu peux rencontrer les gens.
Ouais.
Et alors que du coup c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus malléable, mais effectivement il y a peut-être du coup moins de relations.
C'est des outils qui permettent de plus facilement rencontrer les gens, mais il ne faut pas mettre le contact virtuel sur le même plan que le contact physique. Et là où vraiment je m'aperçois qu'on commence à en souffrir en juin, enfin c'est-à-dire qu'on commence à souffrir plutôt que on a sûrement commencé à en souffrir il y a de ça bien longtemps. Et c'est qu'aujourd'hui on arrive à un stade où ces nouveaux moyens de communication et compagnie ne suffisent plus. Et on est aussi sur des termes d'échelle, sur des termes de budget et compagnie qui ont grossi aussi. Et j'ai dit des trucs cons, mais peut-être qu'on se croit indé et qu'au bout de 2 ou 3 jeux d'un nouveau genre, on va s'apercevoir qu'il y a une nouvelle vague indé qui sort, qui essaie de revenir aux origines, qui essaie de faire des jeux vidéo en 2 semaines, en 3 semaines, avec des moyens absolument ridicules, et que c'est finalement eux qui deviennent le jeu indé.
Bah, c'est déjà un peu le cas avec les Game Jam là. Ouais, finalement, ils font plein de jeux en 48 heures et après ça devient un jeu en une semaine.
Ça. Et d'ailleurs, je m'aperçois de ça puisque c'est ce qui était arrivé pour mon jeu, parce que mon jeu c'est une grosse technologie qui permet de faire des centaines de choses. Et je parlais de ce tutoriel de 50 niveaux, mais je l'ai fait en 2 semaines. Et ce qui fait que, et depuis 2 ans et demi, je transforme ce tutoriel fait en 2 semaines en un jeu. Mais c'est vrai que tu as ces notions de. C'est tous ces délais incompressibles entre le test, le développement, le système de tutoriel et compagnie. Et c'est vrai que tu t'en rends pas compte.
Tu as joué à son jeu ou pas ?
Non, pas encore, c'est super intéressant. C'est vraiment une question que moi j'ai sur ce positionnement. Parce que moi j'arrive pas à me définir. Je rentre pas dans la case.
Est-ce que c'est obligé de se définir parce qu'en fait, moi quand je regarde un film, je me dis pas là le mec il est indé ou pas. Quand j'avais vu The Revenant là de Iñárritu, je sais plus quoi. Pour moi ce mec c'était un indé, j'avais vu déjà un de ses films avant. Pour moi c'était un mec sorti de nulle part qui était indé, il avait une vision très précise, il avait, je sais pas, une photo. Et puis ensuite, quand j'ai regardé le truc avec DiCaprio, je me suis dit en fait non, il est pas indé. Enfin, entre guillemets, il est pas indé.
Mais
il est plus indé. Mais pourquoi je suis obligée de le mettre dans une case ? Pour moi, c'est le même mec. J'ai tout de suite reconnu le style. Et j'ai l'impression que c'est un problème très jeu vidéo, la case indé.
C'est pas
des
chroniques jeu vidéo, mais.
Chronicle, ça aussi, ce film Chronicle, donc fait avec un budget relativement réduit, mais qui a eu un gros succès. Donc filmé genre caméra à la main, avec des gens qui ont des pouvoirs et tout. Et d'ailleurs, le réalisateur était devenu à ses côtés. Après ça, il a fait un autre film. Et j'ai oublié le nom de ce film. C'était un film, ça faisait un gros budget, mais il a totalement bidé. C'est con parce que c'était un réalisateur qui avait fait un film assez cool avec un bon concept. Et puis finalement, il était absorbé par la machine. Puis pouf, maintenant il est grillé.
Moi, on parle pas justement. Enfin, j'ai l'impression que dans le domaine du cinéma, moi, la musique, je dirais pas indé, je dirais underground, des trucs qu'on casse pas en fait, ouais, puisque voilà. Indé, on sait pas quoi en faire, c'est le truc, c'est underground quoi, ça parle aux gens de niche.
Mais t'es plus indé quoi, à partir du moment où tu commences à plus avoir la maîtrise sur ton œuvre artistique et à te faire imposer des choix. Donc, ça, dans un certain sens, on peut dire que peut-être Iñárritu, il a réussi son Revenant parce qu'il a peut-être. Enfin, ça sera vérifié, mais il a réussi à garder la main sur son film et à continuer à choisir sa photo et aller au bout de son expression artistique, alors que certains autres réalisateurs récupérés par Marvel se sont retrouvés bouffés par la machine et ont été obligés de suivre des choix imposés pour plaire à un public plus jeune.
Du coup, indé égale indépendance et création.
Sur l'œuvre.
Bah, c'est ce qui est arrivé.
Ça, c'est difficile de savoir exactement si l'indépendance existe vraiment.
On a quand même des histoires parfois, c'est ce qui est arrivé à Guillermo del Toro. Il voulait faire un film sur les montagnes hallucinées, donc Myth of Cthulhu et tout. Et au dernier rendez-vous de validation avec Warner Bros, les mecs de Warner, ils ont dit non. Ils ont dit non pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas d'histoire d'amour. Donc il n'y a pas de premier rôle féminin et tout, avec une histoire d'amour, les héros, pour que tous les couples aillent voir le film. Et deuxième, c'est qu'il n'y a pas de happy ending. Va faire un happy ending dans le monde de Cthulhu. Ouais. Et donc voilà, mais ça c'est les deux grosses contraintes pour dire, bon, on ne fait pas, on ne peut pas financer ce projet, on refuse de financer ce projet parce qu'il n'y a pas ces deux éléments absolument primordiaux pour toucher une majorité de public, à savoir donc le relation de couple et happy ending. Et donc Guillermo del Toro, voilà, il a claqué à la porte, il est très, très en colère, et bah, il a rejoint Kojima donc sur Death Stranded, un truc comme ça.
Enfin, le nouveau jeu de Kojima. Mais d'abord, il avait fait Silent Hills.
C'était dans les dernières années, je crois que c'est à moins d'un an, c'est toujours à peu près un an l'annulation définitive des montagnes hallucinées. Je ne veux pas dire de bêtises non plus, il faut vérifier, mais... C'était censé être le nouveau projet indépendant de Guillermo del Toro.
Mais la différence entre le jeu vidéo et le film, c'est que dans le film, les acteurs ont une influence sur le film, mais le réalisateur et le directeur de la photographie, ils ont quand même une influence hyper importante sur le choix des angles, etc. Le choix de la lumière. Alors que dans le jeu vidéo, il y a tellement d'intervenants...
Est-ce que ton directeur de la photo, c'est pas ton moteur de jeu? Ou ce genre de truc, des éléments techniques...
C'est tes choix de caméra aussi dans ton jeu.
Oui, mais peut-être que t'as quand même une certaine limite. Tu vois tout de suite si un jeu il est fait avec Unreal ou s'il est fait avec Unity. Quoi.
Mais disons que pour avoir fait un tout petit peu de, justement, de tournage, montage, filmer des trucs et tout, un dicton du film, c'est de dire qu'il y a trois écritures. Il y a une écriture au scénario, une écriture au tournage, une écriture au montage. Pourquoi? Parce que tu dis, voilà, le héros il entre par la porte. Sauf que quand tu vas tourner, tu vas dire, ah ouais, mais bon, cette autre porte, elle est vachement plus belle. Bon, c'est pas celle de la pièce, mais on va tourner là. Et puis au montage, tu vas dire, ouais, mais finalement, ça s'enchaîne pas bien les plans, donc j'ai plutôt retourné l'image ou inventé autre chose, etc. Et en fait, ça marche assez bien parce que tu fonctionnes en cascade. Tu fais tout le scénario, tu fais tout le tournage, les effets spéciaux, etc. Ça découle assez bien. Le problème du jeu vidéo, c'est que tu fais énormément de recherche et développement. Avec donc, c'est toute cette notion de, tu sais, quand tu commences, tu sais jamais quand ça va se terminer. Parce que pour trouver de nouveaux gameplays, il faut aussi trouver de nouvelles façons de programmer ces gameplays. Et ce qui fait que tu restes dans une espèce d'enfer de recherche et développement, avec aussi des besoins de faire des vertical slices. Avec ce besoin de dire, ouais, ok, donc au bout de seulement un an sur les trois ans, il faut qu'on ait un chapitre du jeu en version définitive. Pour les rapports, donc pour lever des fonds, pour rapport aussi, pour faire des machins, etc. Ce qui fait que tu vas développer ça, mais en attendant, tout le reste du jeu, c'est les petits polygones, des machins mal faits, des trucs à demi bidouillés, et c'est un peu bizarre. Donc j'ai l'impression que, mais après je suis pas vraiment du film, donc je saurais pas dire, mais j'ai l'impression que d'un côté, du côté du film, c'est assez bien fait en cascade, tandis que du côté du jeu vidéo, c'est un peu bidouillé, mélangé. Et...
Mais dans le jeu vidéo, t'as quand même, je dirais pas plusieurs écritures, mais t'as ton idée d'origine, après t'as les contraintes techniques, et ensuite t'as quand même les retours des joueurs. Ton jeu, il y a quand même des playtests, après tu vas quand même modifier en fonction.
C'est ce que tu dis, c'est-à-dire que le jeu il est déjà, par exemple, à 2 ans de développement, sauf qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui colle pas, et on va devoir retourner beaucoup plus tôt dans l'origine du projet. C'est justement dans les films, ce qu'ils appellent les reshoots, c'est quand ils ont une version finale du film, ils se disent « ouais, mais ça va pas ». Il aurait fallu 3 scènes supplémentaires avec le héros, la cascade et compagnie. Sauf que alors, tu dois re-recruter le héros, re-recruter l'équipe et tout pour aller se tourner une scène supplémentaire avec la cascade. C'est un peu ça qu'on se retrouve à faire. Mais c'est très rare dans le film, et ils essayent de faire d'éviter ça au maximum. Par contre, dans le jeu vidéo, j'ai l'impression que c'est assez courant d'avoir un feedback de joueur ou un gros truc, ou ne serait-ce qu'un bug. Parfois, voilà, c'est la technique qui va pas, c'est un bug, et tu dois retourner beaucoup plus tôt dans la technique, dans cette période quasiment de conception, en disant, bah voilà, on va changer ça, mais tu redégringoles tout le reste, il faut recommencer les tests, il faut recommencer les playtests, etc.
Enfin, les bugs, c'est cool. Des fois, c'est cool. Tu vois, les gens...
Argumenter.
Oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe quand t'as un bug, toi, en tant que joueur la première chose que tu fais, c'est que tu montres à quelqu'un en disant « Hey, j'ai trouvé un bug !» Uniquement en tant que joueur, pas de créateur ou quoi que ce soit. Donc tu partages ton expérience avec quelqu'un d'autre. Cette personne, elle essaye de reproduire ce que tu as fait pour reproduire le bug et de le montrer à quelqu'un d'autre. Et au final, c'est un partage d'expérience. Ça dépend du bug, hein. Faut pas que ce soit un bug blue screen, machin, mais des fois, il y a des petits bugs... Les trucs d'Assassin's Creed où on voyait les dents, etc. Vous voyez un bug émergent, ça rajoute une plus-value des fois.
Assassin's Creed en avait des très sympas. T'avais celui qui dédoublait ton personnage, qui crée un autre héros. Oui, et ce héros était contrôlé par une intelligence artificielle, donc il essayait de faire un peu la même chose que toi. Donc allez, voilà, il va tuer les ennemis et tout. Sauf que si jamais tu lui donnes un coup, il se retourne contre toi et il te tue. Et c'est un combat à mort, et si jamais ton double meurt, tu meurs aussi.
Je me souviens de comment ça s'appelle ce truc. Le truc de cow-boy de Rockstar.
Red Dead.
Ouais, voilà. Il y a un moment, j'ai eu un bug et tous les oiseaux c'était des êtres humains.
Non, c'est vrai.
Mais ils avaient le rig. Ils doivent utiliser un rig d'êtres humains pour faire les oiseaux. Donc ils avaient les bras qui étaient allongés et je voyais plein d'êtres humains qui volaient dans le ciel. Et putain, c'est un bug, c'est trop génial, quoi.
J'avoue, là.
Il y avait des gens qui faisaient des trucs artistiques. Je me souviens que, toujours sur Assassin's Creed, il y avait un mec qui s'était retrouvé bloqué contre un mur. Mais le truc con, hein, c'est... Il était comme ça, il était contre un pilier, donc il faisait tourner un peu la caméra, t'avais les pecnos qui marchaient dans la rue. Et puis le mec, il s'est mis à faire bouger le gars, un peu comme, tu vois, s'il marche, les différentes animations. Il essayait de déclencher les animations. Et puis il y a d'autres gars qui l'ont repris en rajoutant une musique, et c'est devenu, le mec qui danse face contre un mur.
Tu vois, les bugs, c'est cool, en fait.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas tout ça.
Le cheval qui passe à travers la map, ouais. Et donc t'as ton cheval qui tombe à l'infini, et puis mais en le filmant avec les nuages et tout, c'est plus dur.
Tu fais une petite musique derrière. Ils avaient fait un truc comme ça, une vidéo Mortal Kombat où ils faisaient tous les bugs du Mortal Kombat, je sais plus.
Tous les bugs.
Mais genre,
une vidéo, ils font tous les bugs.
Ouais,
et il avait programmé tous les combats avec des bugs, et ça faisait des fatalities dans tous les sens, les personnages qui changeaient de couleur, qui se dédoublaient, qui devenaient des points de lumière.
T'avais des bugs comme ça, c'était aussi pour les exploits, tous les gens qui font des speedruns de jeux avec des bugs.
Les tasses avec les bugs, c'est...
Et donc surtout voilà, quand c'est assisté par ordinateur, mais disons qu'il y avait des trucs, mais même sans tasse, même carrément à la main, c'est des trucs tout cons comme si tu avec ton Mario Bros 5, si tu sautes à l'envers, tu vas légèrement plus vite ou légèrement plus loin, un truc comme ça. Ce qui fait que tu te retrouves avec des gens qui font des playtests en faisant tout le jeu en sautant à l'envers.
Portal. Portal, ils font tout. Le meilleur mec, il fait tout en sautant en arrière et en visant dans des coins perdus entre les portes et dans des glitches. Genre dans un coin de mur, il y a un glitch, il y a un trou. Et là, il tire pile dans le trou et il a un portal qui s'ouvre sur un autre niveau et il change de niveau.
T'avais dans Mystic Quest sur Game Boy, donc Final Fantasy Adventure, le nom américain, t'avais un bug au moment des changements d'écran. Et tu coupais un champ de fougère et tout, et en te plaçant à un certain endroit et en changeant vite droite-gauche, oh, tu te retrouvais dans la caverne de glace vers la fin du jeu. Et
c'est des charnets, comme ça.
Ah oui, c'est comme. Et l'un des plus célèbres, ça reste quand même. Mais là, c'est absolument mythique, c'était dans Pokémon. T'avais l'île cramoisile. Puisque le principe de programmation de Pokémon, c'était que quand tu te promènes dans l'eau, tu rencontres des Pokémon eau, mais quand tu te promènes sur la berge, tu rencontres les Pokémon du sol. Et le principe, c'est qu'ils avaient programmé ça de façon trop simple. Ils avaient dit la dernière zone, sur la berge, tu rencontres les zones les Pokémon de la dernière zone terrestre traversée. Ce qui fait que si tu passais dans certaines zones comme le zoo safari, tu pouvais rencontrer sur la berge des Pokémon que tu capturais avec toutes les Pokéballs que tu voulais. Et bien ça déclenchait toutes des séries complètes de bugs. Tu avais une manipulation hyper complexe qui te déclenchait l'île secrète. L'île secrète, c'était que tu faisais 500 pas d'une certaine façon, tu sauvegardais, voilà, machin. Et quand tu te promenais après sur la berge de l'île, tu rencontrais des Pokémon d'un niveau supérieur à 100. C'est dingue. Et donc, notamment si tu appelais Sacha,
c'est un bug.
Alors là, c'est un bug complet, mais tu pouvais l'exploiter parce que tu te retrouvais comme ça avec des Pokémon. Niveau 128, normalement, c'était t'appeler. Et ça dépendait du nom de ton personnage. Parce que comme les jeux Game Boy sont généralement avec assez peu de variables, si tu rêvais, tu réussis à foutre la merde d'une certaine façon, tu déclenches des trucs. Notamment si tu appelles ça Sacha, tu tombais sur des Aquaquak et des Nosferalto niveau 128. Okay. Et il y avait un nom, tu t'appelais genre Xerotini Crème, un truc comme ça, et tu tombais sur des Mewtwo niveau 128. Et...
Mais ça c'est créé par les genre, ils sont un gros studio, ils sont mis, il y en a un qui s'est fait chier à dire, sinon je vais mettre des trucs marrants dedans.
Je sais pas comment quelqu'un a trouvé ça, mais donc il y avait cette possibilité. Donc le bug de base, c'était de se dire, ah oui tiens, mais en fait, si je réussis à trouver un endroit dans le jeu où je peux me promener sur la berge sans être passé par une zone hostile, bah je pourrais rencontrer les Pokémon de la dernière zone hostile traversée, quelle qu'elle soit.
Okay.
Et donc ça c'était la première version. La deuxième version c'était, en plus de ça, je fais une manipulation pour donc rencontrer des Pokémon d'un niveau supérieur à 100 qui dépendent du nom de mon personnage. Et le troisième niveau c'était la ville bug, et l'île secrète. C'est tu fais une manipulation de ce genre là, en plus de ça en te promenant, et tu te retrouves téléporté dans une ville qui est composée, qui est au plein milieu de l'eau et qui est composée de morceaux de chipset avec toutes les trucs de ville. T'as par exemple un morceau de tel bâtiment, un morceau de tel paysage, un morceau de truc. Alors tu peux te promener un peu, et mais généralement tu finis bloqué dans un mur invisible, un truc comme ça. Et il y a des gens qui racontent que tu pouvais capturer des Picabloo, donc des Marie le Pokémon.
Ça c'est pas vrai.
Par contre, tout le reste c'est vrai. La ville bug, j'étais dans la ville bug.
Il paraît qu'il faisait des missiles à tête chercheuse qui tuait des enfants en Syrie. Est-ce que c'est vrai comme légende?
Mais la PlayStation 2 ne sera pas commercialisée dans certains pays parce qu'elle est tellement puissante qu'elle pourrait servir à contrôler des missiles.
C'est une légende urbaine.
Ça c'était raconté. Ouais. D'ailleurs, ça sortait d'où? Ça c'était raconté dans la com?
Ou... Je ne sais pas.
T'avais aussi le fait que la PlayStation 2 pourrait animer en temps réel tous les cheveux de la tête d'un personnage, mais bon, c'est bien.
Il y a eu la même chose sur la PS3.
T'as des mecs qui ont fait des super calculateurs avec les PS3, pour de vrai.
Quand elles étaient sous Linux au début, là, ils les branchaient en réseau, je sais pas quoi.
Oui, la main américaine en a acheté quelques centaines parce que, comme les consoles étaient vendues à perdre, ça permettait, c'était la solution la moins chère pour obtenir donc toute une série de puces et monter des trucs en bas des
calculateurs en réseau. C'est peut-être des légendes urbaines inventées par les gars du marketing de Sony, hein. Les mecs qui sont fait agresser le jour de la sortie de la PS3, tiens non, et qui se sont fait tuer. En fait, c'est peut-être les gars du marketing de Sony qui sont allés les tuer pour. Voilà.
Par contre, la sortie de la PS3, c'était rigolo. C'était, tu trouves encore ces vidéos avec la sortie, notamment sur la péniche avec les allées désertes, ou encore l'interview du mec qui faisait la queue aux Champs-Élysées, durant la fenêtre des Champs-Élysées, parce que t'as un mec qui faisait la queue.
Ouais. Un seul.
Il dit, oh, je suis un peu déçu, je croyais qu'il y aurait plus de monde quand même.
Le héros, quoi.
Je me souviens encore de la sortie de la PS2 au Virgin des Champs-Élysées, avec une sorte de truc en aluminium là qui soulève. C'est sur une pile centrale de console, et t'as une ruée, les gens qui se mettent à se battre.
T'es un peu plus âgé, moi j'étais trop jeune pour avoir à l'époque regardé les images, mais tous les mecs de ta génération m'ont dit, tous les gars de ta génération m'ont dit, quand on a vu les images, on a cru qu'il y avait eu des morts.
Ouais. Si tu veux, je l'ai. Je l'ai gardé, elle est sur un serveur à moi, en souvenir, parce que c'est vraiment, ça fait peur.
C'est un peu éloigné du thème des
indés.
Ouais, oui,
bon.
Un petit peu.
C'est les légendes du jeu vidéo.
T'as même pas les bugs.
De toute façon, je suis arrivé à la conclusion que indé c'est pauvre. Enfin, moi, je suis arrivé à cette conclusion.
Ah bah bravo.
Voilà.
C'est pas beau.
Alors continue, yes.
Vous êtes un peu nourri parce que sinon vous allez mourir de faim.
C'est sympa le menu. J'aime bien le menu. Et c'est pas parce que je suis bourré.
Donc là, c'est le X.
J'ai pris que 4 bières.
Non, 2, ça va.
Je sais pas, avant.
Et puis moi j'ai des trucs à fêter, j'ai pas encore fêté mon Kickstarter.
C'est vrai.
Ouais. Ma nana était fatiguée. Merde. Je suis revenu de Bordeaux. En sortant du train, j'ai vu 100%. Ça y est, on a eu la date, on a Discord avec nos joueurs. C'était assez marrant comme expérience.
Il y a personne qui a retiré sa généreuse donation de 1000 $, donc voilà.
Ah ok, ça y est, je comprends.